Prions.
Seigneur, nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y trouver ta parole. Merci d'être ce Dieu qui nous parle. Accorde-nous ton esprit pour que nous puissions entendre les textes et la prédication avec ton intelligence et les oreilles de la foi. Sois avec notre pasteur Linda, afin que sa prédication soit habitée par ton esprit et fasse son chemin dans nos cœurs. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, qui est la parole faite chair, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons deux lectures pour aujourd'hui que nous indique le lectionnaire suisse. Notre première lecture se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Abraham vient de recevoir trois mystérieux hommes sous les chaînes de Mamré qui lui ont annoncé que Sarah et lui auront un enfant. Puis les hommes, des anges, point d'interrogation, s'en vont et Abraham discute avec Dieu sur le sort des villes de Sodome et Gomorre. Nous lisons dans Genèse 18 les versets 20 à 33. Et l'Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Abraham s'approcha et dit : Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel dit : Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit : Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? L'Éternel dit : Je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit : Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit : Je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit : Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit : Je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit : Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit : Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit : Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit : Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui.
C'est bon.
Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Oh, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, tu donneras-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
Quand vous priez, à quel Dieu vous adressez-vous? Quelle est l'image de Dieu qui domine dans votre cœur et votre esprit quand vous priez? Est-ce que ce serait un Dieu sévère, juge dans le sens dur du terme, qui voit plutôt tout ce qui ne va pas chez vous, ce que vous n'avez pas fait bien, plutôt que le reste? Est-ce que c'est un Dieu qui vous semble sourd et lointain, et trop occupé pour se soucier de votre petite personne? Ou un Dieu peut-être un peu étranger et que vous ne connaissez pas vraiment personnellement, mais bon, vous priez quand même parce que ça se fait? Ou est-ce un Dieu trop grand, trop saint, pour qu'on puisse lui dire certaines choses? Jésus apprend à prier. Et le premier mot de la prière, c'est « Père ». Un Dieu Père. Alors, on va y revenir tout de suite. Mais, juste un mot sur cette prière. On a ici, dans l'Évangile de Luc, une version minimaliste de notre Père. Par rapport à, par exemple, celle qu'on trouve chez Matthieu, au chapitre 6, qui est beaucoup plus développée. Où on voit dans cette version très ramassée de Luc comment Jésus a enseigné à prier, puisque c'était la demande qu'on lui a demandée. Un disciple dit « Enseigne-nous à prier ». Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il propose une prière équilibrée entre trois choses. La louange, quand on dit à Dieu que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, Il y a quelque chose là qui se dit de la gratuité de dire à Dieu qu'il est Dieu, saint, régnant. Il y a la deuxième chose, c'est la demande. Donne-nous notre pain de ce jour. Et puis, la troisième chose, c'est la repentance. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Si vous faites attention à la liturgie d'un culte, je dis ça peut-être pour les plus nouveaux, on a dans le culte ces trois prières, dans des moments différents du culte. On a de la louange, prière de louange, on a une prière de demande, d'intercession. Ce sera tout à l'heure, après la prédication. Puis on a la prière de repentance, confession des péchés, on l'a faite. Ici, dans le texte qu'on a lu, Jésus met l'accent sur la prière de demande. On appelle la prière d'intercession pour soi et pour les autres. Mais avant de rentrer dans le détail là-dessus, revenons, non pas à nos moutons, mais à notre Père, du moins au Père, puisque Jésus me dit, quand vous priez, dites « Père ». Alors, nous qui avons 2000 ans de notre Père, les enfants, les jeunes qui sont ici, je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à apprendre de notre Père, je sais que Timothée, c'est vers l'âge de 3 ans. Peut-être que ça nous paraît normal qu'on s'adresse à Dieu en disant « Père », mais il faut savoir que c'est une nouveauté que Jésus instaure là. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne s'adresse jamais directement à Dieu en l'appelant Père. On peut trouver le nom de Dieu Père peut-être une quinzaine de fois, comme ça, dans la Bible, mais ce n'est pas de cette façon qu'on s'adresse à lui. On peut le voir dans les psaumes, où on trouve beaucoup de prières qui s'adressent à Dieu. Sauf erreur, on ne dit jamais, le psalmiste ne dit jamais Père. Il va dire Seigneur ou Éternel, il va dire mon Dieu, il va dire Dieu vivant, etc. Mais il ne dit pas Père. Dans la culture et piété juive du temps de Jésus, on ne s'adresse pas à Dieu comme ça, familièrement, en disant Père. En disant même Papa, hein, ce que Jésus fera, en araméen Abba, c'est Père. Non, parce que Dieu est trop saint, Dieu est trop, mérite trop de révérence, et il n'a tellement rien de commun avec nous qu'on ne peut s'adresser familièrement à lui comme ça. Écoutez cet extrait du Kaddish, qui est la prière quotidienne du judaïsme, un petit peu leur Notre Père à eux, prière jusqu'à aujourd'hui, hein, qui date, cette prière elle date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc au tout début des temps de notre ère. Alors, je vous lis ce petit extrait, il nous dit donc, « Que soit béni et célébré, glorifié et exalté, élevé et honoré, magnifié et loué, le nom du Saint béni soit-il, lui qui est au-dessus de toute bénédiction et de tout cantique, de toute louange et de toute consolation, qui sont proférées dans le monde et dites Amen. » Voyez, hein, la majesté de Dieu qu'on ne va pas comme ça appeler Père. Donc, quand Jésus enseigne à prier en disant simplement Père, il dit là, en fait, ce qu'il est venu faire en ce monde, c'est-à-dire, donc Jésus, hein, c'est-à-dire nous dire l'amour infini de Dieu pour nous, l'ouverture d'une ère nouvelle où Dieu fait alliance avec nous, un genre d'alliance paternelle, père-enfant, où nous pouvons être non plus éloignés de lui, condamnés, perdus, c'était ça, hein, mais où nous sommes trouvés, adoptés, aimés, rachetés, élevés au rang d'enfants, d'enfants de Dieu. Dire « Père », c'est poser mon identité de chrétien, de chrétienne. Je ne suis pas dans ce monde un être orphelin qui doit se battre, seul et ne compter que sur lui-même pour vivre et exister. Je ne suis pas non plus le fruit du hasard, le hasard scientifique, ou le hasard, que sais-je, astral, biologique. Et je ne suis pas non plus un enfant non désiré. Vous savez, c'est un accident. Non. Mon identité profonde que j'exprime quand je prie, c'est d'être un enfant de Dieu, un enfant du Père, un enfant engendré par le Créateur qui m'a dit lors de mon baptême « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie ou toute mon affection. » Un enfant de celui qui m'a désiré bien avant que je sois conçue et qui avait un projet pour moi. Je vous lis cet extrait du psaume 139 qui dit donc le psalmiste s'adresse à Dieu « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. » C'est beau, hein ? Comment on existe dans le cœur et le projet de Dieu avant même de naître. Pouvoir dire Père, c'est avoir accès à une relation intime, ô combien intime avec lui, comme le petit enfant l'est avec son papa. Parce que le Père, normalement, c'est celui à qui on peut tout dire, surtout quand on est tout petit. C'est celui avec qui on peut négocier aussi. Hein, on le voit avec Abraham, car on sait qu'un cœur de père n'est pas un cœur de pierre. Abraham n'a jamais, à ma connaissance, appelé Dieu Père, mais il savait de quel genre de relation il avait avec Dieu. Et on voit, on a entendu cet exercice de marchandage extraordinaire qu'il se permet pour négocier, que soient épargnés les gens de Sodome et Gomorre, dont on savait qu'ils étaient pas très fréquentables. Alors je suis sûre, pour les parents ici, ou pour les grands-parents qui se souviennent quand leurs enfants étaient petits, puis peut-être que les enfants grands le font encore, je suis sûre que vos enfants négocient avec vous, non ? Je vois des mamans qui sourient, je vois déjà... T'as droit à 20 minutes d'écran aujourd'hui. Non, allez, 30. Et puis quand vous dites 30, mais pourquoi pas 40? Ben, réjouissez-vous. Ce sont des fils et des filles d'Abraham. Réjouissez-vous, nous sommes des enfants d'Abraham. Alors, frères et sœurs, il y a des blessures avec cette histoire de père. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce qu'on a eu, comme beaucoup d'entre nous, un père dysfonctionnel, parce que Dieu sait qu'il y en a, eh bien, ce n'est pas pour ça que nous devons projeter cette image-là sur Dieu, parce que c'est ce qu'on fait, naturellement. Ou chercher en Dieu une mère, ou que sais-je. En Dieu, nous avons la perfection de ce qu'est un père. Il porte à l'accomplissement tout ce qui est défaillant chez les pères terrestres. Vous voyez ça ? C'est l'image, c'est le père parfait. Il est au-delà de nos représentations humaines, tout en étant proche. C'est celui dont le nom est saint et dont le royaume vient, oui. Et c'est à lui, et à lui seul, que Jésus nous enseigne à confier nos vies, à faire part de nos besoins les plus intimes et les plus vitaux. À lui seul, qu'on soit bien d'accord, sans aller chercher dans ses pères humains, qu'ils soient biologiques, ou pères de cœur, ou pères qu'on s'est choisis, que sais-je, des personnes qui remplaceraient ce que Dieu seul peut être, un Père rempli de tendresse, de compassion, de compréhension pour nous, un Père pour qui nous comptons, pour qui nous avons de la valeur, en nous demandant de l'appeler Père, Jésus nous invite à lui dire « Je veux dépendre de toi et de toi seul. Que toi seul sois mon secours, ma délivrance, mon espérance. Car toi seul, oui, toi seul, peux combler tous mes besoins, toute la faim et la soif qui sont en moi. Toi seul, Père céleste, peux répondre à mes demandes profondes. » Alors venons-en à ces demandes. Nous avons entendu, après avoir enseigné notre Père, Jésus qui raconte une parabole, l'histoire de cet homme qui a un invité chez lui et qui n'a rien à manger et qui va frapper chez un ami en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car je n'ai rien à offrir à un de mes amis qui est arrivé de voyage, etc. » Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit cette prière? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Moi, je vois 3 choses qu'on peut retenir, il me semble, ce matin. Premièrement, elle nous dit qu'il faut prier avec persévérance et insistance. On prie, on demande, mais souvent parce que Dieu n'a pas répondu. Alors on se dit, c'est pas sa volonté, ou j'ai peut-être... c'est pas ainsi, c'est pas... j'abandonne. Là, Jésus nous enseigne à ne pas abandonner au bout d'une fois, ni 2, ni 3. Je sais pas combien de fois il a frappé à la porte, cet ami. Parce que ça ne veut pas dire que quand Dieu ne répond pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas ou qu'il ne répondra pas. Dieu a son temps, qui n'est pas le nôtre. Et il a ses raisons qui ne sont pas les nôtres. Quand un enfant, à l'échelle de sa vie, un enfant qui a 6 ans, plus 6 ans, il demande quelque chose pour Noël, qui est dans une année, c'est énorme une année, 1/6 de sa vie. Mais c'est le temps pour que ce qu'il demande arrive. Alors parfois c'est long, et pas plus tard qu'hier, comme un signe, quelqu'un m'a dit qu'il a prié pendant 25 ans pour demander quelque chose à Dieu. Et c'était pas un caprice, c'était demander à Dieu un don. Et ça lui a été donné, mais 25 ans après. Alors patience, frères et sœurs, tout arrive quand vous priez avec persévérance, et si c'est selon la volonté de Dieu. Puis la deuxième chose, il me semble, c'est que, en lisant ce texte, je me suis dit, mais la prière, elle est précise ici. Cet homme qui frappe à la porte, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas, est-ce que tu n'as pas un petit peu à manger, quelque chose qui te reste? Il lui dit, donne-moi 3 pains. 3 pains. Alors on peut dire beaucoup de choses sur le chiffre 3, dont je vous ai déjà parlé. Le chiffre de la perfection, de la totalité. Est-ce que c'est allusion à la Trinité de Dieu? Que sais-je? Mais en tout cas, moi je retiens qu'il demande 3 pains précisément. Son besoin, c'est 3 pains, et il le demande. Sans complexe. Abraham, on l'a entendu, il marchande de façon précise et chiffrée. Il ne dit pas juste « Seigneur, aie pitié des habitants de Sodome et Gomorrhe en général. » Il ose des chiffres. Précisément. Alors, pour nous, ça peut être aussi une leçon. Osons demander précisément nos besoins à Dieu. Et puis la troisième chose qui nous est dit là, c'est que je pense que il nous faut oser la prière de la foi, la prière qui a de l'audace, la prière qui demande grand. Et ça, on ne sait pas très faire, parce qu'on est réformé. On a beaucoup de barrières dans notre façon de prier, parce que Dieu est souverain, c'est vrai. Mais pour autant, il nous demande de prier. C'est la prière qui fait confiance, aveuglément. Ici, on est au milieu de la nuit. Le type, il va aller déranger son ami. Il y a plein de raisons pour ne pas aller demander. Mais il se dit, j'ose. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? entre portes closes. Bon, bah alors, j'y vais. Abraham, quelle audace de marchander ainsi. Et on voit bien qu'il n'est pas tout à fait encore complètement... Mais il ose. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Si Dieu veut dire non, il dira non. Je pense que oui, frères et sœurs, Dieu veut l'audace de l'enfant qui s'adresse en confiance à son père et lui dit « Papa, je veux aller sur la lune, sur tes épaules, ni plus ni moins. Car je sais que tu le peux. » Cette confiance-là qui ne doute pas, est-ce qu'on l'a perdue? Alors, je vois les réserves. On n'ose pas parce que « Et si Dieu ne répondait pas ?» Il y a plein de prières qui restent sans réponse. On a peur que ce ne soit pas raisonnable. Quand on prie pour des choses miraculeuses, oh là là. On demande à Dieu de nous aider à supporter le mal, mais sans oser lui demander de vaincre le mal qui nous arrive. L'homme dans la parabole, si on réécoute bien, si on relit bien, il n'a pas essayé simplement de passer la nuit en demandant de supporter la faim. Il est allé demander du pain. Il a un problème, il demande à Dieu de combler ce problème. Je crois qu'il y a là pour nous une impulsion. En tout cas pour moi, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais pourquoi tu n'oses pas demander des choses grandes, des choses larges, des choses pas raisonnables? Est-ce que la raison entre en compte? La raison de Dieu n'est pas notre raison. Lisons la Bible et voyons-y que du déraisonnable à vue humaine. Hein. Paul le dira, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et puis la prière, alors ça se termine un peu le texte qu'on a lu par la demande du Saint-Esprit. On se demande un peu pourquoi Jésus dit si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Eh bien, le Saint-Esprit, il est donné à l'homme, à l'humain qui le réclame comme un don, je pense, qui contient et qui remplace tous les autres. Et là, ça nous donne à méditer, à réfléchir profondément. Est-ce que je demande à Dieu son Saint-Esprit tous les jours? Le Saint-Esprit, il nous équipe afin que l'œuvre et l'action et le projet de Dieu puissent se déployer pleinement en nous. C'est un petit peu là ce qu'on peut demander de plus, de mieux. Ça nous permet, le Saint-Esprit nous permet de rêver grand et donc d'oser demander grand. Vous voyez le rapport circulaire et vertueux. Demandons le Saint-Esprit pour qu'il nous permette de demander. Dieu est le Dieu de la croissance et de la vie, frères et sœurs. Jamais du rétrécissement et de la mort. Que nos demandes aillent dans ce sens. Alors oui, demandons. Et demandons surtout le Saint-Esprit à notre Père Céleste pour qu'il nous guide et nous équipe de ses dons. Afin que nous puissions vivre en vrais enfants du Père, libres. Ce Père parfait, qui nous aime d'un amour parfait et qui veut pour nous la vie en plénitude, nous pouvons lui demander. Amen.